Marché action versus marché obligataire. Pourquoi une telle différence dans la reprise depuis le début du mois d'avril? Pourquoi une telle divergence alors que le marché action s'est repris de manière verticale, même s'il marque une pause à court terme, et que le prix des obligations s'est maintenu à un niveau bas? Explication complète dans cette nouvelle édition du Top Gun. Avertissement légal, cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver comme chaque lundi dans l'émission Top Gun où nous parlons du marché action international, essentiellement du marché action US qui drive les marchés actions occidentaux, mais où nous parlons aussi des obligations parce que nous évoquons le sujet des taux d'intérêt et parce que vous connaissez la corrélation inversée en bourse entre le prix des obligations et le rythme, la tendance imprimée par les taux obligataires du marché. Alors, dans cette nouvelle édition du Top Gun, j'ai voulu refaire un point sur le marché obligataire. Rassurez-vous, je vais traiter le marché action. J'ai un plan qui d'ailleurs s'affiche sous vos yeux avec beaucoup de rubriques à la fois fondamentales et techniques, comme d'habitude. Mais c'est probablement quelque chose qui vous a marqué. Alors, on prend un peu de recul. Il y a eu le choc boursier du mois de mars, du début du mois d'avril, suivi d'une puissante remontada, d'ailleurs coupant l'herbe sous le pied de tous les permabères qui rêvent d'un krach boursier de type 2000-2001 ou 2008-2009, et encore raté pour eux, ils n'en l'ont pas eu. Ils ne l'auront pas. Mais peu importe, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est marché action versus marché obligataire. La volatilité sur les obligations a chuté. C'est ce que montre le Move Index, qui est l'indicateur de volatilité du marché obligataire. D'ailleurs, c'est un indicateur de liquidité important. Le marché action, les GAFAM, par exemple, se sont repris de manière verticale. Le S&P 500 nous a fait une reprise en V. Une structure en V, il n'y a pas plus puissant comme reprise, depuis le support majeur des 4800 points que nous avions vu ensemble. Et se pose la question de savoir, est-il en mesure de rejoindre son record historique? Pas aujourd'hui, pas cette semaine. Le rythme de marché est toujours là. Alternance entre des impulsions et des pauses. Alternance entre des impulsions et des retracements. Mais le S&P 500... est-il en mesure de rejoindre sur le contrat futur les 6166 points? Je suis précis, c'est le sommet historique du contrat futur S&P 500 qui a été atteint en février dernier. Je vais aussi traiter ce sujet dans cette nouvelle édition du Top Gun. Donc, il y a plusieurs points. Déjà, le S&P 500 qui marque une pause. Peut-il, d'ici juillet-août, alors que se déploie la diplomatie commerciale, peut-il rejoindre son record historique? Mais, de manière surprenante, en tout cas pour certains, vous savez, marché action et marché obligataire se donnent souvent la main. Eh bien, le prix des obligations, lui, est resté complètement à la traîne. Les capitaux sont revenus sur les actions, pourtant le risque reste présent. La guerre commerciale n'est pas terminée. La paix commerciale n'est pas là. La guerre, la diplomatie, il faut des accords de paix. Un accord de paix en guerre commerciale, c'est un trade deal, c'est un accord commercial. Tout le monde espère que ça va arriver. Entre les États-Unis et la Chine, les États-Unis et l'Union européenne, les États-Unis et l'Inde, les États-Unis et les principales puissances économiques. Mais le marché obligataire, lui, le prix des obligations est resté très bas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des capitaux qui sont entrés sur les obligations, mais pas suffisamment, en tout cas, pour porter le prix plus haut. Mark to market n'a pas été suffisamment puissant. D'autre part, les taux d'intérêt, eux, se maintiennent à un niveau élevé. Les taux d'intérêt même remontent, alors que pourtant la désinflation a repris. Pourquoi? Que se passe-t-il? C'est le sujet que je traite dans cette nouvelle édition du Top Gun. Alors, je vous le dis d'entrée de jeu, je spoil un peu, mais s'il vous plaît, allez au bout de la vidéo. Selon moi, Après la pause à court terme, oui, le S&P 500 peut rejoindre cette année son record historique. Et je pense que le prix actuel des obligations reste une zone basse, une zone d'opportunité long terme. Il est toujours bien d'avoir un portefeuille diversifié et avoir une partie de son portefeuille global. Je parle portefeuille boursier, pas la totale. Il y a d'autres parties dans l'épargne financière, hein. Il y a notamment l'aspect immobilier que je mets à part. Donc je n'en tiens pas compte dans le pourcentage que je vais vous donner. Mais avoir 10, 15%, 20% d'obligations dans votre portefeuille, c'est une très bonne diversification. Et là, les prix sont bas. Donc c'est intéressant. Vont-ils le rester, ces prix ? Quand bien même les prix resteraient bas, une obligation, ça verse un coupon. Chaque année, ça verse du rendement. Vous encaissez des revenus. Et en achetant à un prix bas, où j'estime que là, le prix des obligations n'ira pas en dessous, c'est une stratégie de revenus aussi. Vous comprenez ce que je dis ? Mais bon, bien sûr que l'idée, c'est d'avoir à la fois des revenus et un prix qui monte. Il y a des conditions à cela. Alors, première partie, un petit récap rapide sur la situation de la guerre. Alors, on ne parle plus hein, de guerre commerciale. Enfin, si, on en parle, mais j'estime que nous sommes passés à l'étape de la diplomatie commerciale. Et notamment, entre la Chine et les États-Unis avec ce délai de 90 jours, qu'en est-il exactement ? Est-ce que les droits de douane sont à zéro pendant 90 jours ? Je reprécise la situation, d'ailleurs c'est pas le cas, hein, mais ils ont quand même été diminués fortement, et pas sur tous les secteurs. Deuxième partie, la désinflation a été confirmée. Écoutez, je suis factuel. Je suis factuel. Vous prenez les courbes d'inflation, les taux d'inflation annuels, que ce soit pour le CPI ou le PCE, les courbes d'inflation ont repris la direction du sud, que ce soit en version nominale ou sous-jacente. Certes, la cible des 2% de la Fed n'est pas faite. Par contre, nous sommes sous les objectifs d'inflation que la Fed elle-même avait fixés pour 2025, qu'elle a mis à jour en début d'année, qu'elle mettra bientôt à jour d'ailleurs. Et pourtant, lorsqu'on écoute les membres de la Fed, lorsqu'on regarde les anticipations du marché, pas de baisse de taux, enfin pas de reprise de la baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux, parce que le taux de la Fed a déjà été baissé 4 fois en dernière partie d'année 2024, avec notamment, rappelez-vous, en septembre, un jumbo Fed cut, c'est-à-dire 50 points de base d'un coup. Bref, pas avant septembre, dans le meilleur des cas. Pourquoi ? Alors que la désinflation a repris. Troisième partie, rapide, les fondamentaux de la semaine, c'est une semaine archi-classique. Quatrième partie, bah le sujet de la vidéo quand même, hein, mais j'attends la quatrième partie pour vous donner mes explications. Pourquoi le prix des obligations s'est maintenu si bas ? Pourquoi n'a-t-il pas profité un minimum du rebond du prix des actions ? Et enfin, cinquième partie, le point habituel. Analyse quantitative, sentiment, positionnement institutionnel, chartisme et liquidité aussi. Je vous fais un point sur la liquidité du marché de l'indice S&P 500. Bienvenue à la nouvelle édition du Top Gam. L'idée est de comprendre pourquoi l'indice S&P 500 nous a fait une remontée verticale depuis ce support majeur des 4800 points, d'ailleurs dont je vais largement vous reparler dans la dernière partie analyse technique de cette vidéo, alors que le prix des obligations, lui, se maintient toujours là, dans une zone d'intérêt de long terme. Mais à un niveau extrêmement bas et n'a pas du tout été soutenu. Vous avez ici les bougies japonaises en données journalières. J'ai pris le contrat de taux américain à 20 ans. Se maintient donc à un niveau très bas. Comment expliquer une telle divergence ? Et est-ce que cette divergence va durer ? C'est donc le sujet de cette nouvelle édition du Top Gain. Guerre commerciale ? Est-ce que la désescalade est vraiment quelque chose de sérieux ? Alors là, je me suis amusé. C'est une capture d'écran qui vient de Bloomberg. C'était une des unes de Bloomberg. Proposée la semaine dernière. Et avant de reprendre avec vous les détails de cette désescalade, notamment en fait, de cette phase de diplomatie commerciale entre la Chine et les États-Unis, je trouvais cette phrase hyper intéressante de la part d'un gérant qui disait qu'il se réservait le droit de modifier ses prévisions de marché aussi souvent que le président Trump modifierait son état d'esprit et en fait sa relation commerciale avec la Chine. Donc ça montre à quel point le marché reste quand même dans l'expectative et reste soumis en fait, et là on parle d'un positionnement moyen-long terme, pas uniquement du court terme, reste soumis à l'avancée de ces négociations commerciales, et puis donc effectivement à l'état d'esprit du président américain. Je trouve que cette citation me paraissait intéressante pour situer ce sujet de la guerre commerciale. Effectivement, nous sommes passés d'une phase de guerre commerciale qui n'a pas duré très longtemps, hein, où les États-Unis ont appliqué 145% de droits de douane à la Chine et la Chine 125% sur les produits américains. Ça a duré quelques semaines avant donc qu'une phase de 90 jours de pause, donc cette phase de 90 jours a commencé. Les négociations ont lieu, hein, quasiment quotidiennement entre le représentant au commerce des différents pays. Et pendant cette phase de 90 jours, eh bien, les droits de douane sur les produits chinois ont été ramenés de 145 à 30%, et les droits de douane sur les produits américains exportés vers les États-Unis de 125 à 10%. Donc déjà, il y a déjà des droits de douane, mais il y en avait déjà avant. D'accord, hein ? On ne part pas de zéro. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tous les droits de douane qui concernaient certains secteurs stratégiques, notamment le secteur des semi-conducteurs, l'acier ou les produits pharmaceutiques, eux sont maintenus. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Il y a encore des droits de douane qui s'appliquent. Et d'ailleurs, si vous prenez les chiffres du commerce, les tout derniers chiffres du commerce entre la Chine et les États-Unis au mois d'avril, il y a eu un effondrement des volumes de 15 à 20%. Donc, en fait, c'est aussi ça, hein, qui a amené les deux pays à entrer dans la diplomatie commerciale, c'est que ces droits de douane-là de 145% et 125% ont déjà entraîné une chute des volumes à 2 points de pourcentage. Donc, est-ce que cette désescalade est sérieuse ? Oui, elle est sérieuse, parce que les deux économies ont pu réaliser au mois d'avril les dégâts que cela avait déjà commencé à faire. Maintenant, le chemin est long, 90 jours, c'est long, ça montre à quel point il y a un certain nombre de désaccords. Et je vous rappelle que l'accord Trade Deal Phase 1 de 2019, de décembre 2019, il avait fallu un an pour le négocier. Là, bien sûr, l'idée, c'est que cela soit fait dans les 90 jours impartis. En tout cas, il y a une désescalade, il n'y a pas encore d'accord commercial, et ça reste un facteur technique, ça reste le facteur fondamental dominant pour les marchés. Et d'ailleurs, même la Réserve fédérale des États-Unis rappelle régulièrement que ça fait partie des raisons qui font qu'elle n'a pas réengagé la baisse du taux d'intérêt de ses fonds fédéraux, tant que cette histoire-là n'est pas arrivée. Bien sûr, aussi, n'oubliez pas une chose, il n'y a pas que la Chine. Il y a aussi la relation commerciale avec d'autres grandes économies mondiales, et en particulier l'Union européenne, l'Inde et le Japon. Il faut suivre ça de près, il n'y a pas que la Chine. Même si, il est vrai, la relation commerciale entre la Chine et les États-Unis est majeure, parce que si cette relation commerciale est abîmée, l'économie chinoise est abîmée. Or, la Chine est le premier importateur mondial, et le dynamisme de l'économie chinoise influence énormément d'économies. Deuxième partie, la désinflation américaine a été confirmée. Alors, pourquoi ? Nom de nom ? Pourquoi ? Bon Dieu ! Pourquoi ? Par Jupiter ? Pourquoi ? C'est comme ça que s'exprimait César. Par Jupiter. Bon. On nous raconte Astérix ou Obélix. Alors, non, sérieusement. Pourquoi la Fed attend septembre ? Qu'est-ce qui se passe ? La Banque Centrale Européenne, l'inflation est identique en Europe et aux États-Unis. Pareil. On est un poil au-dessus de 2%. Un poil au-dessus de 2%. Lorsque vous écoutez le discours de la Banque Centrale Européenne, eux, pour eux, le discours officiel de la BCE, la guerre commerciale ne relancera pas l'inflation. C'est le discours de la BCE. D'ailleurs, le taux directeur de la BCE est revenu en zone neutre. Alors, pourquoi la Fed attend ? Alors qu'en plus de ça, Jérôme Powell subit régulièrement des coups de pression de la part du président Trump. C'est une question qui occupe l'esprit de la haute finance et qui est majeure en fait pour les prochaines semaines. Moi, je pense que le S&P 500 sera en mesure de remonter en direction de son record historique d'ici quelques semaines. Mais pour dépasser le record historique, là, ça ne se fera pas si la Fed maintient son taux actuel, son taux d'intérêt actuel. Alors, effectivement, la désinflation a repris aux États-Unis. Là, c'est juste factuel, hein. C'est pas moi qui cherche à voir ce que j'ai envie de voir. Vous avez ici, donc, l'inflation US, vous avez ici, je me réduis un peu, l'inflation US selon le CPI. Vous pouvez observer la courbe de l'inflation nominale en marron et de l'inflation sous-jacente en rouge. 2,8 pour l'inflation sous-jacente, 2 pour l'inflation nominale. Et vous avez notamment l'inflation des services, qui n'est pas loin d'être revenue au monde d'avant. L'inflation des services est à 3,6%, le monde d'avant on était à 3,2%. Donc on n'est pas loin du monde d'avant. Le monde d'avant, c'est le monde d'avant l'envolée de l'inflation post-crise sanitaire, le monde d'avant le Covid. Ensuite, lorsque vous prenez l'indice d'inflation favori de la Fed, l'indice d'inflation favori de la Fed, vous l'avez sous les yeux, c'est l'inflation PCE. Elle aussi a repris la direction du sud. L'inflation PCE nominale est à 2,3, l'inflation sous-jacente, core PCE, est à 2,6. Me direz-vous, nous ne sommes pas à 2, mais la direction est la bonne. La direction du sud a été reprise. Alors, deuxième observation importante, eh bien, les métriques actuelles de l'inflation, et notamment la version sous-jacente à 2,6 et la version nominale à 2,3, sont en dessous de ce que la Fed elle-même envisageait pour cette année. Puisque la Fed envisageait pour cette année 2,7 en nominal, 2,8 encore, nous annonçons deux baisses de taux. Donc nous sommes actuellement à 2,6 ici et nous sommes à 2,3 ici. Nous sommes déjà avec des mesures de l'inflation PCE qui autorisent deux baisses de taux. Mais voilà, d'ici la fin de l'année, il reste 1, 2, 3, 4, 5 décisions de politique monétaire. Donc nous sommes revenus à des mesures d'inflation qui sont au-dessus de la cible de la Fed, mais en dessous des prévisions de la Fed pour cette année, pour lesquelles elle nous avait dit qu'elle placerait deux baisses de taux. Il reste 5 réunions de politique monétaire d'ici la fin de l'année. Donc ça passe encore. Et d'ailleurs, le marché, lui, envisage que ces deux baisses de taux promis par la Fed. Ici, vous avez un tableau qui agrège les anticipations de politique monétaire de la Fed, de la haute finance, et les anticipations des membres du FOMC, c'est-à-dire les membres votants du comité de politique monétaire de la Fed qui décident des taux d'intérêt à venir de la Fed. Grosso modo, tout le monde se retrouve sur le 17 septembre. En même temps, le 17 septembre, il ne restera plus que 3 réunions. 17 septembre, 29 octobre, 10 décembre. Au mieux, meilleur des cas, 30 juillet. Bon. Alors, j'ai toujours pas répondu à la question. Enfin, si, en partie. Déjà, parce que la Fed nous avait dit deux baisses de taux et qu'elle a le temps de les placer. Alors, les dernières mesures de l'inflation ont vu l'inflation aller au sud. La toute dernière, vous savez, la meilleure façon d'avoir la... Lorsqu'un taux d'inflation est publié, il est publié en rythme annuel et en rythme mensuel. Donc, d'une année à l'autre ou d'un mois à l'autre, pour vraiment avoir la mesure court terme. Parce que là, ce qui nous intéresse, c'est est-ce que ces tarifs douaniers là appliqués, alors certains sont en pause, mais n'oubliez pas qu'il y a 10% pour tout le monde, depuis avril, est-ce que ça crée une surchauffe? C'est ça qu'on se pose comme question. Ben, lorsque l'inflation est publiée chaque mois, il faut regarder le taux de croissance mensuel d'un mois à l'autre. Et ce taux de croissance mensuel d'un mois à l'autre, sur le dernier CPI qui a été publié, il n'est pas en surchauffe. 9, il n'est pas en surchauffe. Alors, pourquoi tant de doutes? Parce que les indicateurs avancés, eux, stressent. Le consommateur stresse. Regardez un peu cette folie du consommateur américain. Ils regardent trop Netflix. Ils regardent trop les informations continues. Le consommateur américain pense que l'inflation va faire beaucoup bien pire que l'envolée du Covid. Ce sont les anticipations du consommateur. Regardons maintenant du côté des professionnels, la composante inflation des PMI dans le secteur manufacturier. Secteur manufacturier qui est quand même effectivement concerné par la guerre commerciale directement. Là, il y a un stress. Mais on ne sommes pas envolés au-dessus des niveaux post-Covid. Mais il y a quand même un doute des industriels. Et dans le secteur des services, ça commence, même si on reste très bas, ce sont les anticipations d'inflation dans le secteur des services des directeurs d'achat. Ça doute, mais tout ce que je viens de vous montrer là, ça n'a rien de réel. Ce ne sont que des sondages des consommateurs, des directeurs d'achat dans le secteur manufacturier, des directeurs d'achat dans le secteur des services. Ces sondages, ils réagissent à quoi ? À l'actualité. Et quand ils ont été faits, ces sondages, il n'y avait toujours pas de pause entre la Chine et les États-Unis 90 jours pour négocier. Donc tout ça peut retomber. Et donc on en revient au premier slide de cette vidéo, la clé de la diplomatie commerciale. Si la presse commence à relayer des progrès, toutes ces anticipations-là retournent au sud. Donc il y a une différence entre la réalité de l'inflation qui a pris la direction du sud et le stress, notamment des consommateurs, que cette inflation rebondisse. Mais ce stress est nourri par l'information en continu. Et cette information en continu peut devenir positive si les négociations se développent. M'avez-vous compris ? Donc il faut jongler en fait entre toutes ces métriques. Vous avez des métriques réelles, d'autres basées sur des sondages. Ces sondages réagissent à l'actualité du moment. Et ensuite, eux-mêmes, ils mettent un mois à être mis à jour. Donc, il y a encore un décalage, comprenez ? Il faut avoir conscience de tout ça. On voit pour le moment, je ne m'inquiète pas de ce stress des consommateurs qui ne sont pas à la table des négociations avec la Chine. Hein, d'accord ? Ça peut retomber si les nouvelles deviennent bonnes. Mais au final, quel est le juge de paix ultime ? Très souvent dans mes vidéos, je vous ai parlé de trueflation. En fait, clairement, pour une fois, ça va servir à quelque chose. Il n'y a rien de mieux. En plus, c'est basé sur la blockchain. Vous savez que c'est la technologie de Bitcoin et des différents tokens, des différentes crypto-monnaies, et qui sont toutes, en fait, pour la plupart, ayant leur propre blockchain. Bon, peu importe. La blockchain est cette technologie sur laquelle Trueflation fonctionne. Plus que jamais, comme jamais Trueflation va compter. Il n'y a pas mieux. On ne connaît pas mieux. Nous ne connaissons pas mieux pour mesurer l'inflation temps réel. Donc, mettez-moi, s'il vous plaît, sous une surveillance extrême, Trueflation. Et notamment, les composantes qui sont directement concernées par la guerre commerciale. Trueflation remonte ces dernières semaines. Il va falloir surveiller cette zone. Ne pas la dépasser. En tout cas, Trueflation se maintient au moment où j'enregistre cette vidéo sous la cible de la Fed. Si Trueflation devait remonter à 3% ces prochains mois, là, ça deviendrait plus compliqué. Donc plus que jamais, cet outil va avoir son importance. Alors, les facteurs fondamentaux de cette semaine, hyper classique, hein, les facteurs fondamentaux de cette semaine, où est-ce qu'ils sont, je les ai mis où, j'en sais rien, ils sont là, voilà. Donc vous avez des statistiques, d'ailleurs, vous avez les indicateurs avancés, les PMI, des statistiques américaines d'activité classique, mais bon, c'est comme d'habitude, c'est l'actualité de la diplomatie commerciale qui sera le facteur fondamental dominant, je ne sais même pas pourquoi j'ai mis ce slide, on s'en fout. Et maintenant, ah oui, mince, j'ai quasiment oublié le sujet de la vidéo. Pourquoi ? Ben, j'ai déjà donné des réponses, bien sûr. Pourquoi y a-t-il une telle divergence entre le prix des obligations et le prix des actions dans la reprise ? Alors, il y a un certain nombre de raisons à cela. Effectivement, déjà, première chose, le prix du marché actions s'est repris de manière verticale. Le prix des obligations, je prends le contrat à 20 ans américain, je peux prendre aussi le contrat à 10 ans. Voilà. Se maintient à un niveau bas, il ne fait pas un nouveau plus bas, mais on voit bien que sur le graphique de long terme, prenez le 10 ans américain, l'obligation américaine à 10 ans, en fait, ça fait quasiment un an et demi que c'est plat tout en bas. Ça fait une espèce de flat tout en bas. Prenez le contrat à 20 ans, voilà. En données, regardez sur le long terme, en fait, on fait exactement cette période-là qu'on avait fait au début du siècle. On est tout en bas. Moi, là, je considère que ça, c'est une zone d'intérêt de long terme. Depuis longtemps, on a des divergences ici qui ont été activées. Bon. Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que ça n'a pas rebondi ? Un minimum avec le marché action. Tout d'abord, la base. Malgré la guerre commerciale, malgré l'incertitude, malgré les collapsologues, malgré le risque de troisième guerre mondiale, les anticipations de bénéfices sont archi positives. Et si les anticipations de bénéfices sont archi positives, c'est qu'il n'y a pas de récession en vue. Regardez-moi cette courbe de malade, cette courbe des anticipations de bénéfices du S&P 500 pour fin 2025. C'est l'explosion haussière. Ou encore ce graphique qui vous montre les révisions de bénéfices des entreprises. Donc ça anticipe encore plus les bénéfices à venir, ce sont les révisions. Et ça y est, nous sommes repartis aux révisions à la hausse. Depuis une zone basse de l'histogramme. Donc il y a à nouveau de l'optimisme sur les perspectives de profit des entreprises. Et s'il y a de l'optimisme sur les perspectives des entreprises, les capitaux vont vers les actifs risqués, donc les marchés actions, et non le marché obligataire. Deuxième point, le risque de dette, la dette publique. La dette américaine ne vous apprend rien, mais rappelez-vous, la dette allemande. L'Allemagne qui a fait sauter certains verrous budgétaires. D'ailleurs, je vais vous montrer, hein, si vous prenez le Bund allemand, pareil, son prix se maintient à un niveau bas. Regardez en hebdomadaire, le Bund est tout en bas. C'est pas que l'Allemagne n'a pas de risque de dette, mais disons que le pays faisant sauter certains verrous budgétaires, il y a un peu plus d'angoisse sur l'endettement public. Et donc, c'est un facteur qui explique cette divergence entre le prix des actions et le prix des obligations. Et puis, bien sûr, pour les taux courts, pour les taux d'intérêt à court terme, et donc pour les obligations à court terme, la Fed, plus que jamais la Fed, les taux d'intérêt remontent. Et vous connaissez, alors très légèrement, mais les taux d'intérêt même à court terme ont remonté, parce que l'intransigeance de la Fed. Parce que le marché n'envisage pas de baisse de taux avant le 17 septembre. Mais cela peut aller très vite, mais au stade actuel en tout cas. Et bien sûr, dernier facteur important qui explique cette divergence entre le prix des obligations et le prix des actions, le nouveau record de la liquidité mondiale. Le nouveau record de la liquidité mondiale qui crée un arbitrage en faveur du marché actions et en défaveur du marché obligataire. Regardez, à long terme, la corrélation positive entre la liquidité mondiale selon M2, la somme des agrégats monétaires M2 du monde, et le S&P 500. La liquidité mondiale ayant fait un nouveau record historique, ben voilà, ça soutient les actifs risqués en bourse. Alors S&P 500, pouvons-nous tendre, je termine par une partie technique, S&P 500, pouvons-nous tendre vers le record historique ? Moi je pense que oui, mais ça va prendre du temps. Mais le mouvement aussi est bien construit. Alors, je vous rappelle que en données mensuelles, le marché a tenu ce support de long terme. Je suis ici en échelle arithmétique. Le signal avait été donné début avril, lorsque le RSI Weekly est ressorti par la zone de survente, ça rappelle exactement ce qui s'est passé ici après le choc Covid. Vous voyez bien qu'après le choc Covid, par étape, on est au moins remonté à l'ancien record. Je pense que ça va arriver. Et par étape. Le marché en journalier, c'est superbe. Il s'est bien repris. Structure en V. Je peux y ajouter les enseignements du système Ishimoku. On a dépassé le Kumo. Maintenant, il faut temporiser un peu. Worst case scenario. Je peux imaginer un retest de la moyenne mobile à 200 jours, du gap. Mais voilà, tant qu'on se maintient au-dessus de cette zone, tant qu'on se maintient au-dessus de cette zone support, l'objectif, c'est de rejoindre, horizon 2-3 mois, je pense, le record historique des 6166 points. Il faut absolument se maintenir au-dessus de la moyenne mobile à 200 et de ce gap haussier. Il y a encore beaucoup de doutes parmi les investisseurs particuliers. Et ça, c'est l'analyse contrarienne des marchés financiers. Ça va dans le sens de mon scénario. Alors, attention, hein, l'opportunité, c'était début avril. Maintenant, rappelez-vous ça, j'ai utilisé ce graphique pour vous dire début avril, buy the dip. Bon, on est quasiment proche de la zone inverse maintenant. Faut être patient. Attention, le pourcentage d'action au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours est en zone extrême. Donc maintenant, ça temporise un peu. Donc voilà, on temporise un peu ici avant de repartir. Par contre, le pourcentage d'action au-dessus de la moyenne mobile à 200, là, il y a vraiment du potentiel. Donc ça va dans le sens d'un marché qui pourrait rejoindre à horizon 2 mois son record historique après avoir temporisé un petit peu à court terme. Voilà, chers amis, ainsi s'achève cette nouvelle édition du Top Gan. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente semaine.